C'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les révoltés de décembre à la une. Ce matin, ils se préparent à la grève et à prendre la température chez les fonctionnaires de la CGT. On se dit que Noël sera chaud cette année. Combien pour l'hôpital ? Le gouvernement administre son plan ce matin. Dans la salle d'attente, les soignants sont à bout de patience. Un enfant sur cinq en situation de pauvreté en France. Et que dire de leur sort dans le monde ? 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, ce sera le thème du grand entretien, Nicolas.
Oui, France Inter vous propose une journée intitulée « Les enfants d'abord ». C'est en partenariat avec Combini et l'UNICEF. Et à 8h20, donc, c'est le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance qui sera à notre micro. Adrien Taquet, appelez-nous, questions, témoignages, dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, dans la famille Klein, je demande la sœur Anne Diane, djihadiste jugée par le tribunal à Paris, la bataille des déchets en Corse. Et puis les premières glisses, on peut déjà chausser les skis dans les Alpes et dans les Vosges.
France Inter.
Cheminot, agent RATP, salarié d'Air France, interne des hôpitaux, avocat. La liste des grévistes du 5 décembre s'allonge à mesure que se rapproche l'échéance contre la réforme des retraites, toujours en consultation. Les plus inquiets sont sans doute les fonctionnaires. Avec le futur système universel à point, le calcul de leur pension va changer. On ne parle que de ça au congrès de la Fédération Service Public de la CGT cette semaine à Montpellier. Et les fonctionnaires que Maxime Deps a rencontrés sont chauds bouillants.
Dans les combatifs, il y a Manuel, en charge du ramassage des déchets à la communauté urbaine d'Angers. De la journée du 5, il en sera, et plutôt deux fois qu'une.
Ah oui, on en sera, oui. Oui, oui. Et on va essayer d'aller au-delà du 5.
Bruno, 51 ans, travaille comme ATSEM dans une école maternelle. Donc, avec la réforme, ses nouveaux calculs, il s'attend au pire. Alors, s'il faut faire grève sur plusieurs jours le mois prochain...
Ah, c'est sûr que oui, on perd mon salaire, c'est sûr. Mais on pense pas à Noël, on pense pas à fin d'année, on pense pas aux vacances. On pense à l'avenir de nos enfants.
Les plus jeunes, Roselyne y pense aussi, elle voit surtout leur découragement.
Les jeunes, ils arrivent, ils disent, bah nous, la retraite, on ne sait même pas si on saura ce que c'est. Et ça fait mal, quoi. Le message aux jeunes, c'est qu'il faut y aller. Maintenant, ils sont rendus à un point de dire, bah c'est fait, on ne pourra plus rien faire, de toute manière, ils font ce qu'ils veulent. Bah non.
Jeunes et moins jeunes, la retraite, c'est l'affaire de tous, martèlent les militants, comme Michael, pour qui le plus dur sera de réussir à durer.
Le souci, il est là. Beaucoup de gens vont se mobiliser, des gens qui ont des petites capacités financières, donc il va falloir qu'on soit solidaire à cet endroit-là, c'est-à-dire peut-être créer des caisses, redispatcher un peu d'argent pour que les gens continuent de participer à des piquets de grève permanents. Mais c'est vrai que le nerf de la guerre va être... Et en face, ils le savent.
S'organiser, ne surtout pas se désunir, tout le monde à la CGT le sait, ce sera la clé pour espérer voir le gouvernement reculer.
Et depuis hier, les policiers menacent de se joindre au mouvement. On en avait compté 27 000 dans la rue début octobre. Cette fois, plusieurs syndicats appellent à des actions dans les services le 5 décembre. Si le ministère de l'Intérieur ne répond pas d'ici là à leurs revendications sur les conditions de travail ou la remise en cause de leur retraite, c'est la dernière sommation, explique Fabien Van Emmelric, secrétaire national du syndicat de gardiens de la paix Alliance.
C'est un appel à manifester autrement, avec des actions dans tous les services de police, donc dans les commissariats. C'est une fermeture symbolique des commissariats de 10h à 15h. Parce qu'on en a, excusez-moi l'expression, on en a ras-le-bol d'attendre. Il y a eu 27 000 policiers dans la rue le 2 octobre et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Et pourtant, on a été très patient. Moi, ce que je peux lui dire au gouvernement aujourd'hui, c'est que la maison police, elle brûle et les ministres, ils regardent. Maintenant, ça suffit. Vous avez jusqu'au 5 décembre pour répondre à nos attentes. Et si ça ne suffit pas, on le fera plus sur quelques heures, mais sur plusieurs jours, plusieurs semaines.
Ce gardien de la paix, représentant du syndicat Alliance avec Corinne Audouin. Mais avant le 5 décembre, la question du jour, c'est l'hôpital et ce plan annoncé tout à l'heure par Édouard Philippe. Rien n'a filtré de ces annonces dont les salariés des hôpitaux attendent beaucoup, Véronique Julia, fort de leur mobilisation massive la semaine dernière et de mois d'appel au secours.
Les revendications sont claires depuis le début. D'abord, rendre les métiers plus attractifs et éviter la fuite des personnels dans le privé en revalorisant les petits salaires. Ensuite, il faut relever l'enveloppe annuelle des hôpitaux. C'est un chèque d'au moins 1,5 milliard que demandent les hospitaliers pour 2020. Revoir aussi la façon dont les décisions se prennent à l'hôpital. Depuis quelques années, c'est la logique d'économie qui prévaut. Il faut changer de paradigme, estiment les grévistes, partir des besoins pour déterminer les financements et pas l'inverse. Ça suppose d'associer davantage les médecins aux stratégies adoptées. Sur ce point, le gouvernement semble vouloir faire un geste et revoir la gouvernance de l'hôpital. Un coup de pouce serait également prévu pour les débuts de de carrière et les personnels soignants de la région parisienne. Le coût de la vie y est élevé, ils pourraient bénéficier d'une prime sur l'enveloppe annuelle des hôpitaux. Il devrait y avoir un geste, là encore, et même une garantie que l'enveloppe budgétaire progressera sur 3 ans et donc dans la durée. Enfin, la dette de l'hôpital public, qui atteint 30 milliards d'euros, pourrait être allégée. Elle pourrait être reprise par l'État, pas en entier, mais au cas par cas. Pour certains établissements qui en feront la demande, allégés de ce boulet, ils devront s'engager en contrepartie à investir dans leurs murs.
Et le plan hôpital, le climat social et tous les sujets qui font l'actualité, toutes les questions seront posées à Édouard Philippe demain matin.
Au micro de France Inter, le Premier ministre est en effet l'invité d'un grand entretien spécial demain de 8h20 à 9h. Le standard, amis auditeurs, vous sera évidemment largement ouvert.
Et pour finir avec ce climat social tendu en cette fin d'année, sachez qu'il faut s'attendre à des perturbations sur nos antennes à partir de lundi prochain. 4 syndicats de Radio France appellent à la grève contre le plan de départ volontaire de 300 salariés annoncé par la direction dans le cadre des économies demandées par le ministère de la Culture.
Il est 8h07, 700 enfants, Florence, dorment dans la rue avec leurs parents à Paris.
Un chiffre comme un coup de poing révélé par plusieurs associations ce matin en ce 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Journée spéciale sur France Inter avec l'UNICEF et en partenariat avec Combini, invité et reportage. Rendez-vous toute la journée dans nos programmes, dans nos journaux. Teddy Riner, ambassadeur de l'UNICEF, sera l'invité du 13h d'Inter. Elle voulait emmener ses enfants en Syrie pour rejoindre ses frères Fabien et Jean-Michel Klein de sombre mémoire. Les deux djihadistes français morts là-bas avaient enregistré la revendication des attentats du 13 novembre 2015. Anne Diana Klein ne les a pas revus. Elle a été arrêtée avec sa famille en Turquie cette même année 2015. Sophie Parmentier comparaît depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris.
Anne Diana Klein a de longs cheveux blonds bouclés, un manteau beige et une voix aussi douce que celle de la juge qui l'interroge. Elle est née sur l'île de la Réunion il y a 44 ans dans une famille chrétienne, a grandi à Toulouse puis à Alençon, a quitté le collège en 4e quand elle est tombée enceinte de sa première fille. Elle a aujourd'hui 6 enfants de 3 pères différents et elle est jugée pour avoir voulu emmener les 4 derniers en Syrie en 2015 avec son mari Mohamed Amri. « Je voulais aller là-bas pour rejoindre mes filles aînées et mes frères et vivre mon islam rigoriste », explique-t-elle au tribunal. Je minimisais le danger. Je pensais que mes enfants iraient à l'école sous le califat. Je ne voulais pas qu'ils deviennent des soldats. La juge lui fait remarquer qu'elle leur a fait écouter des chants guerriers, ces anachides que ses frères Fabien et Jean-Michel Klein ont lus et chantés pour revendiquer les attentats du 13 novembre. Mes frères ont toujours chanté, alors on écoutait bêtement. Je leur faisais une confiance aveugle, se justifie Anne Diana Klein. Et elle jure qu'en prison, elle a changé et qu'elle voit enfin le côté fanatique de l'État islamique.
Quand Israël frappe la Syrie, l'aviation israélienne annonce avoir mené une attaque de grande ampleur contre des sites militaires syriens et des forces iraniennes présentes sur place à coups de missiles solaires, entre autres. En représailles à des tirs de roquettes sur Israël, ça n'est pas la première fois, mais il est rare que l'armée israélienne revendique des attaques sur le sol syrien. Direction Londres maintenant pour le premier grand débat de la campagne des législatives. Boris Johnson face à Jeremy Corbyn à 3 semaines du scrutin. Scrutin pour la suite de l'histoire au Royaume-Uni et la mise en place du Brexit. Arriveront-ils à mobiliser les électeurs éprouvés par des mois de mauvais feuilletons politiques? Ça reste à voir, Aude Soufi.
Il a souvent dû lire ses notes, baisser la tête pour trouver ses mots. Pourtant, Boris Johnson n'a fait que répéter sa marotte, le même message qu'il ressasse depuis des mois.
To get Brexit done, get Brexit done, get Brexit done.
Mettre en œuvre le Brexit. Et pour que le pays sorte de l'Union européenne le 31 janvier prochain, il demande aux électeurs de lui donner une majorité absolue au Parlement. Même à cette question posée par un membre du public, qui est son leader étranger préféré, il trouve une pirouette pour enfoncer le clou.
J'aime les 27 dirigeants européens, tous. Ils m'ont donné un accord fantastique.
Face à lui, à l'inverse, Jeremy Corbyn veut parler d'autre chose. Sa position ambiguë sur le Brexit au cours des 3 dernières années l'a souvent mise en difficulté et sa proposition d'organiser un second référendum sur la question peine à convaincre des Britanniques lassés. Mais le travailliste compte sur son programme social pour séduire les électeurs.
C'est l'élection la plus importante de cette génération. Pour en finir avec la privatisation du système de santé, lui donner des financements pour s'attaquer à l'urgence climatique, pour investir dans de bons emplois pour notre pays.
Il reste 22 jours aux Britanniques pour se décider. Le vote par correspondance, utilisé ici par un électeur sur 5, commencera dès mardi prochain. À Londres, Otsoufi, France Inter.
La consigne des bouteilles en plastique enterrées par Emmanuel Macron devant le Congrès des maires hier, elle ne sera pas imposée, rien ne sera fait sans votre accord, leur a dit le président. Les maires qui ont investi dans le recyclage ne voulaient pas de cette mesure du projet de loi économie circulaire en première lecture à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. En Corse, si seulement c'était le seul problème, plus qu'aucune autre île de France, la Corse ne sait pas quoi faire de ses déchets et c'est une nouvelle crise qui se profile autour du futur centre d'enfouissement de Vigianello, près de Propriano, autorisé par la préfecture, mais combattu par les riverains et les écologistes, Célia Quiré.
À Vigianello, au sud-ouest de la Corse, les riverains ne supportent plus de recevoir chaque jour la plupart des poubelles de l'île. Ils accueillent déjà un grand centre d'enfouissement totalement saturé. Pas question d'en accepter un deuxième. Une cinquantaine de militants très déterminés se relaient pour bloquer le site. Frédéric Larigi du collectif Valinku Lindu invoque des raisons sanitaires.
On a un centre d'enfouissement qui reçoit 150 000 tonnes de déchets par an, qui se trouve à 800 mètres des captages d'eau potable de la ville, à 150 mètres du fleuve, qui est presque au-dessus de la nappe phréatique. C'est une urgence sanitaire de fermer ce site-là sans y ajouter encore 10 ans d'enfouissement supplémentaire. Tant qu'il faudra tenir, on tiendra. Nous n'accepterons plus les déchets des autres régions de Corse.
Mais en face, la préfète de Corse, Josiane Chevalier, estime être au pied du mur. L'île ne sait plus où entreposer ses déchets. Ce nouveau site est pour elle la seule solution.
Pourquoi je l'ai autorisé ? C'est parce que pour sortir d'une crise à court terme, c'est-à-dire 2020, je n'ai aucun autre projet. La crise, elle est inéluctable.
Et en attendant, le principal site d'enfouissement de l'île a été fermé. Les poubelles commencent à s'entasser. De son côté, l'une des porte-paroles du collectif Valinku Lindu semble avoir été visée. Un incendie vraisemblablement volontaire a ravagé le hangar agricole de ses parents.
Elle avait laissé distribuer de l'eau contaminée à la chlordécone en Guadeloupe à 90 ans. L'ancienne élue et ancienne ministre de Jacques Chirac, Lucette Michaud-Chevry, a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis.
France Inter, il est 8h13. La suite du journal, Florence Paracuelos.
Bonjour madame, nous vous proposons un produit très avantageux. C'est une assurance. On a tous eu ce genre de démarcheur au bout du fil pour se retrouver parfois avec un contrat sans l'avoir vraiment souhaité. Eh bien, ce démarchage téléphonique des compagnies d'assurance doit changer, estime le comité consultatif du secteur financier. Est-ce pour autant la fin du harcèlement et des méthodes contestables ? Olivier Guéraud l'espère en tant que juriste à l'association de consommateurs CLCV.
C'est une bonne chose, si vous voulez, c'est un avis qui remet en cause la manière actuelle de commercialiser l'assurance par téléphone. Aujourd'hui, la manière dont on vend des assurances par téléphone est catastrophique. La réglementation permet que un oui prononcé au téléphone suffise à conclure le contrat. C'est ça le problème. Maintenant, nous sommes face à un avis du comité consultatif et l'assurance connaît un petit nombre d'acteurs qui sont des moutons noirs, qui utilisent des pratiques tout à fait toxique pour extorquer un oui. Donc on peut s'interroger sur le fait que ces moutons noirs rentrent dans le rang du fait d'un avis. En tout cas, nous, clairement, on sera extrêmement attentifs à la manière dont le marché évolue et de toute manière, on continue à réclamer l'interdiction pure et simple de la vente des produits d'assurance par téléphone.
Olivier Guéraud de l'association CLCV avec Philippe Lefebvre. La France, entrée en lice en Coupe Davis, nouvelle version, remporte sa première session face au Japon à Madrid. Victoire de Tsonga et de la paire Mahut-Herbert en double. Les Bleus affronteront la Serbie de Djokovic jeudi. Quant à l'Espagne, rien de plus facile pour Rafael Nadal que de battre le Russe Khachanov, même en commençant à jouer à minuit 45, ce que l'Espagnol déplore. Enfin, c'est la saison avant la saison, l'hiver, avant l'hiver. Si certains s'en plaignent en région Rhône-Alpes, et on les comprend, privés d'électricité pendant plusieurs jours après de grosses chutes de neige, d'autres savourent et chaussent leur ski. Ouverture des stations de la Bresse et de la Planche des Belles Filles aujourd'hui dans les Vosges. En Savoie, rendez-vous à la Clusaz ou Val Thorens pour de premières descentes ce week-end. Les pistes de fond sont déjà praticables au Revard, 30 cm de neige, pour le plus grand plaisir des fondeurs qu'a rencontré Luc Chemla.
Et notamment de Sabine et Michel, ils viennent spécialement d'Isère.
C'est le monde de Narnia, c'est magnifique.
Quand je vois ça, je me dis que les conditions, elles sont tip-top.
Du soleil, une température proche des 0 degrés et près de 25 cm de neige.
C'est trop bon, quoi. En plus, il n'y a personne, quoi. Donc, ouais, c'est un régal. Bah, la neige, elle est super fraîche, en fait. Elle n'est pas du tout lourde. Enfin, c'est parfait.
Allez, qui dit mieux ?
C'est que du bonheur pour nous.
C'est exceptionnel. Je pense que c'est la première fois qu'on vient aussitôt.
Les skis encore au pied, Romain, et tout transpirant. Avant d'aller au travail, il vient de boucler plusieurs heures de balade en ski de fond.
Là, c'était vraiment top, hein. Franchement, ouais, c'était pas mal. Il y a encore quelques petits cailloux par endroit, mais franchement, c'est pas mal. Là, ça comme la saison pour commencer, je pense. Ça fait du bien de voir de la neige tomber, quoi. Tant qu'il y a la neige, faut en profiter. Dès qu'elle est là, faut sauter dessus.
Et il y en a bien un qui saute dessus, c'est Gérard, 71 ans. Lunettes de soleil sur le nez et grand sourire, il est requinqué.
Pour moi, c'est aussi un moment où je suis disponible, connecté avec la nature. J'ai l'esprit disponible et je remets un petit peu tout en ordre, comme on ferait un reset en quelque sorte, voyez. Et puis il y a la sensation de glisse, c'est des skis de fond extraordinaires.
Pour l'instant, en revers, les skieurs peuvent profiter de 20 km de piste.
Voilà, quant à nous, nous sommes fiers et ravis d'être montés tout en haut du téléphérique oui. Et de la montagne, comme nous l'indiquent ces derniers résultats médiamétrie ce matin.
Oui, France Inter, et pour la troisième fois consécutive, la première radio de France, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, près de 6 400 000 auditeurs chaque jour. C'est aussi la meilleure rentrée jamais réalisée par notre radio sur tous les indicateurs. Wow. Au moins, c'est clair, là, Léa.
Quant au 7-9, vous êtes encore plus nombreux à nous écouter en cette rentrée. Nous vous en remercions. Vous êtes plus de 4 millions tous les matins à vous réveiller avec nous. C'est 200 000 auditeurs de plus sur un an. Bah, merci, quoi.
Bah ouais, mais changez rien.
Et Florence.
Et Florence, énorme journal de 8 heures. Florence, vous êtes, selon l'expression de Léa, la femme la plus écoutée de oui, France, oui. Votre journal bat absolument tous les records.
Voilà, c'est un honneur. Vous êtes impitoyables parfois avec nous, souvent avec nous, chers auditeurs. Et surtout, ne changez rien.
Changez rien,
ouais. Restez-le.
Et nous saluons également les records historiques du journal de 13h de notre ami Bruno Duvic et de l'émission La Terre au Carré de Mathieu Vidard, que vous écoutez aussi tous les jours dans notre matinale. Un grand merci, Florence.